C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Tout le monde ou presque est passé par là, quelque part au milieu de notre scolarité est venu le moment d'étudier quelques grands classiques de la littérature. Les Fleurs du Mal de Baudelaire, L'étranger de Camus, Madame Bovary de Flaubert, certains de ces livres vous disent certainement quelque chose. Il existe une œuvre difficile d'accès et qui pourtant est présentée comme la plus grande œuvre littéraire de tous les temps. C'est Dante qui entre 1307 et 1321, écrit la Divine Comédie, un long poème complexe, torturé et en tercets enchaînés d'endécasyllabes en langue vulgaire florentine. Pour étudier avec nous l'étrange contenu et les mystères de la Divine Comédie, la divine équipe de l'histoire avec un grand I. Bonjour Alexandre Blin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Thierry Lafleur.
Bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors première question pour démarrer l'émission, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on appelle ça la plus grande œuvre littéraire de tous les temps ?
Et bien tout simplement au sens propre du terme. C'est-à-dire que donc Dante a écrit entre 1307 et 1321 ce long poème, qui est la plus grande œuvre littéraire, tout simplement parce qu'elle mesure 57 mètres de haut lorsqu'on déplie le parchemin.
Et 57 mètres de mots, ça fait environ... ça fait justement environ combien de mots pour un poème ?
Ça fait à peu près 120 000 mots.
Ah oui, donc il écrit petit.
Il écrit plutôt petit.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme contenu sur ces 57 mètres de haut ? Qu'est-ce qu'il y raconte, Dante ?
C'est donc, comme vous l'avez dit, c'est essentiellement des insultes en florentin.
Parler de langue vulgaire, effectivement.
Oui, voilà.
C'est vraiment apprendre au premier degré.
Ah oui, c'est très, très vulgaire.
Mais tout dans l'œuvre de Dante est apprendre au premier degré. C'est la plus grande œuvre, mais c'est aussi une langue très vulgaire.
Voilà, le second degré pour Dante, très peu pour lui. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui allait directement en source. Et c'est à ça, justement, toutes ces lettres de noblesse, finalement, on lui attribue cette façon qu'il avait d'être direct, finalement, et de dire les choses d'une façon que personne n'osait le faire en 1307-1321.
Ok, intéressant. Alors, peut-être avant de rentrer dans le cœur du sujet, de ce poème de 57 mètres de haut, est-ce qu'on peut rappeler un peu qui est ce personnage, d'où vient-il ? Visiblement, c'est un florentin, puisqu'il parle la langue florentine. Voilà, qui est Dante ?
Oui, tout à fait. Donc Dante, c'est un Florentin né, on ne sait pas trop, il est né vers les années 1265, on n'a pas de lieu exact, c'est dans la région florentine en tout cas, ni de date exacte. Il décède le 14 septembre 1321.
Donc juste après avoir terminé son poème.
Terminé son poème à l'âge de 56 ans, effectivement.
Quelle est sa vie ?
En fait, on ne sait pas du coup sa date de naissance finalement, parce que Dante a été trouvé. Il a été trouvé finalement dans les rues insalubres de Florence et il a été donc recueilli par un gang qui va finalement le prendre sous son aile, et finalement c'est là qu'il va justement qu'il va apprendre la vie à l'école de la vie dans les rues de Florence.
En fait, Dante signifie petit loup retrouvé en langue vulgaire florentine. Donc c'est vraiment ce qu'il marque, même jusqu'à son nom, c'est un petit enfant qui a été trouvé par un gang et élevé effectivement, comme le dit Thierry, à l'école de la vie.
Donc on ne connaît pas qui sont ses parents, quelle est sa famille, c'est vraiment un orphelin.
Sa famille, si, en fait, sa famille, c'est son gang, c'est son quartier, et vraiment, eux on les connaît, puisqu'ils apparaissent plusieurs fois, ils sont cités dans la Divine Comédie. Tous les personnages de la Divine Comédie font partie du gang de Dante. Donc eux, on les connaît. Par contre, oui, sur les parents biologiques de Dante, on n'en a aujourd'hui encore aucune idée, bien sûr.
Alors, comment se passent les premières années de Dante dans ce gang ? C'est pas quand même courant de voir un enfant en très bas âge, on va dire, être récupéré comme ça dans la rue. Qu'est-ce que ça crée comme personnalité chez notre personnage ?
Ça crée il n'a pas d'attache, il n'a pas de maison, à part son gang, évidemment, à qui il doit allégeance, d'une certaine manière, et à qui il donne tout. Donc le petit Dante est très vite est soumis à la rudesse de la rue, où il va commettre ses premiers larcins au nom de son gang. Il va voler sur les étalages, des fruits, des légumes. Et malheureusement, avant de se faire couper la main, à l'âge de ses 10 ans, parce qu'il avait volé, il avait volé
de la porcelaine.
De la porcelaine, voilà. De la porcelaine ramenée de Limoges, voilà, qui était arrivée à Florence.
Mais oui, mais et je dirais que Dante, voilà, est marqué jusque dans sa chair par cette histoire. Mais il se découvre sa personnalité lorsqu'il s'essaye au verbe, à l'ancêtre de ce qu'on peut appeler le rap. Hein,
clairement.
Et avec des premiers battles de punchline entre les gangs rivaux, un peu à la manière des rap contenders, peut-être que si vous avez cette référence totalement de contemporaine. Voilà, et Dante très vite s'illustre dans cette discipline et par sa plume et par son art de la punchline et du verbe agressif.
Une discipline qui aurait été amenée et inventée par Dante lui-même, c'est-à-dire que avant dans les rues de Florence, voilà, on se battait exclusivement avec des armes blanches et autres bagarres. Mais à partir du moment où Dante arrive, c'est après au niveau de ses 15 ans. Où justement il commence à attaquer les gens verbalement, les autres gangs du coup qui vont tout faire pour lui répondre. Et en fait c'est à partir de là que vraiment à Florence se lancent justement ces battles de verbes comme on pourrait les appeler.
C'est une manière pour lui de garder une stature. Il se fait couper la main très 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 jeune. Il n'est pas très 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 grand gaillard. Voilà. Donc pour rivaliser avec la férocité des autres gangs, il décide effectivement de se battre avec les mots.
Donc il décide de se battre avec les mots. Comment ça se passe? Combien il y a de gangs dans les rues à ce moment-là? Est-ce qu'ils organisent vraiment des moments particuliers, des grosses battles comme on peut le voir aujourd'hui? En fait, qui sont les premiers gangs qui participent et qui vont le suivre dans cette aventure?
Alors, il y a deux gangs principaux à Florence. Donc, il y en a beaucoup, mais il y en a deux principaux. Donc, Dante fait partie du gang des loups, oui. Bien sûr. Et il y a le gang
de la truite,
qui est l'autre gang qui sévit, qui est vraiment le plus important à Florence à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, Dante fait partie du gang des loups. Après, on retrouve toutes sortes d'autres gangs. Le gang des X, le gang... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Vous y connaissez bien, vous, Julien.
Le gang de la main bleue aussi.
Tout à fait, le gang de la main bleue, le gang des éviers.
Gang des éviers qui va se rallier à celui des loups, d'ailleurs, sous Dante, pendant qu'il écrit la Divine Comédie.
Tout à fait. Mais encore une fois, le gang des éviers qui était très de l'école de Dante quand il s'agissait de la punchline, contrairement à l'école du grand Séquoia, où là, c'était un style tout autre et qui s'est vraiment opposé à Dante.
Donc, voilà. Un gang à l'époque, c'est combien de personnes? Est-ce qu'on peut essayer de faire une petite carte sociologique de c'est quoi un gang? Quels sont les personnages qu'on y trouve? Comment est-ce qu'ils sont organisés?
Vous savez, un gang, hein, le but premier d'un gang, c'est de faire régner la terreur, la peur dans une zone d'influence où on pourra profiter de cette zone d'influence donc pour gagner de l'argent et pour vivre chichement. Non, pas chichement, justement, pour vivre dans comment dire, plutôt bien, quoi, plutôt aisément.
Dans l'opulence.
C'est ça, tout à fait. Et donc, au niveau sociologique, effectivement, un gang, ça dépend de la zone d'influence, hein, mais par exemple, le gang du loup régnait sur toute la région ouest, sur toute la partie ouest de la ville de Florence. On comptait pas moins de 80 louveteaux, beaucoup d'enfants, et une bonne double centaine de loups aguerris, voilà.
Mais oui, et puis alors que par rapport à... Il y avait des gangs beaucoup plus petits aussi.
Oui.
Il y avait des gangs de triple sizaine, de poissons, les séquoias, on appelait ça une forêt.
C'était une double vingtaine. Ils étaient une double vingtaine.
Pas une double vingtaine de
petits arbres.
Ouais.
Mais voilà, après, si on peut revenir justement sur la hiérarchie du gang des loups, parce que c'est lui qui nous intéresse, le gang de Dante. Donc, il était composé d'un chef de meute, le chef de meute qui, à l'époque, s'appelait Harlequin. Donc, Harlequin qui était le grand chef de la meute des loups. Et vraiment, il n'y avait personne au-dessus de lui et tout le monde en dessous de lui. C'est-à-dire qu'en dessous du chef de la meute, tout le monde était considéré comme égal.
D'accord, donc c'est même pas un système pyramidal. Là, il y a juste une personne qui contrôle tout.
Voilà,
et après,
tout à fait.
C'est horizontal.
Et qu'on soit loup ou louveteau, finalement, ça c'était juste pour déterminer l'âge et le rite de passage finalement à l'âge adulte. Mais finalement, les loups n'avaient pas forcément de pouvoir sur les louveteaux. Voilà, il y avait seulement le chef de meute qui prenait les décisions tout au long de son règne.
Alors justement, ce personnage Harlequin, est-ce qu'il a influencé Dante d'une façon significative ?
Pas du tout. Pas du tout. Il est, en fait, il est
non.
Harlequin, donc il était chef au moment où Dante a été recueilli. Et là où on pourrait dire qu'il l'a influencé, c'est qu'il a peut-être donné envie à Dante de devenir chef de meute, et c'est ce qu'il deviendra plus tard. Donc peut-être que voilà, ça a quand même été une figure, je suppose, pour lui, puisqu'il a finalement eu cette envie de devenir chef de la meute du gang des loups.
Alors Dante du gang des loups, on se retrouve pour en parler juste après la pause musicale.
Something in his jewels, darling, to pretend for something for the weekend.
Et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I après Something for the Weekend de The Divine Comedy. Juste avant la pause musicale, on avait placé le contexte, on avait parlé des différents gangs, et notamment le gang du loup dans lequel grandit Dante. Quel est le lien entre son enfance dans un gang et cette œuvre d'art qu'est la Divine Comédie qu'il commence à écrire en 1307?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette Divine Comédie, c'est un texte unificateur, au fond. Un texte unificateur qui va, à la fin du coup de la vie de Dante, unifier tous les gangs florentins pour en faire ce qu'on connaît actuellement comme étant la mafia.
Voilà, c'est un texte que commence à écrire Dante, donc on l'a dit, en 1307, au moment où il devient chef de la meute, au moment où il prend la direction du gang des loups. Et à ce moment-là, en fait, assez vite, il se met à écrire ce texte, la Divine Comédie, avec pour objectif, comme l'a dit Alexandre, d'unifier les gangs.
Et c'est très logique, parce que c'est un texte que Dante met 14 ans à écrire. Mais c'est le texte parfait, comme à l'époque. Tous les combats se jouent sur qui aura le meilleur verbe, qui sera le mieux s'exprimer. Dante nous accouche de 57 mètres de parchemin qu'il a mis 14 ans à écrire, qui est le texte le plus ultime. Et au fond, à quoi bon se battre lorsqu'on a vu tous les mots?
Ça peut-être bien qu'on revienne justement sur cette notion de bataille et de bataille verbale. Je ne sais pas si on avait déjà évoqué, mais je crois que tu l'avais dit Thierry, mais c'est Dante qui a initié cette coutume.
Oui, après ça, c'est ce qui est dit. Il n'y a pas de preuve vraiment à proprement parler, mais la
période coïncide. Dante
excellait et la période coïncide étrangement avec l'arrivée de Dante dans les rues de Florence.
On le disait, c'est un petit peu l'ancêtre des battles de rap. On appelait ça la mischia, hein, la mischia, la bagarre en italien, qui se jouait dans des caves dans Florentine. Ce texte, La Divine Comédie, vient mettre tout le monde d'accord. Dante la récite à sa mort. Dans l'ultime mischia, ce qu'on appellera l'ultime mischia, la mischia finale.
Qui le verra s'opposer au chef du gang détruite, Panfil Almoroso.
Mais d'ailleurs, le texte commence comme une attaque sur le gang détruite. D'ailleurs, j'ai un petit extrait ici que je peux vous lire. Moi, la truite, je la découpe, j'en fais des sushis, je la mange cuite, rien à foutre dans mes spaghettis. Donc
c'est une traduction.
C'est du français, mais voilà, c'est beaucoup plus beau en langue florentine vulgaire.
On n'a pas les nuances.
Non, on n'a pas les nuances. Mais bon, voilà, ça fait vous donner une idée. Donc ça commence par cette attaque sur le gang détruite et sur son dirigeant. Mais ensuite, il va s'attaquer à tous les gangs et leur dire et vraiment, voilà, je suis meilleur que vous à cette bataille du verbe. Ton séquoia, je l'abats, ça va faire timber. Tu n'es rien, tu es du bois, tu ne me fais pas peur. Quand il s'attaque au gang des séquoias.
Tout à fait. Mais en fait, et c'est pour ça, dans ce texte, dans l'ultime mischia, il s'en prend à tous les gangs. Donc il commence. Les esprits s'échauffent. Il y en a qui ont déjà envie d'en venir aux mains, qui ont envie de mettre fin à cette mischia pour déjà partir en vraie bagarre, entre guillemets, en vraie mischia. Mais assez rapidement, le texte prend une autre tournure. Et on arrive justement au discours unificateur que voulait Dante et qu'a fait Dante.
C'est le refrain.
C'est le refrain.
Le refrain qui commence par « C'est la Divine Comédie, et t'es pas prêt mon pote, on a fait l'école de la vie, tu vas lécher mes bottes. »
Et voilà, et là il se pose en leader suprême.
Voilà,
ça met tout le monde d'accord.
Tout le monde va lécher mes bottes parce qu'on voilà, on a tous fait l'école de la vie en fait. On a fait l'école de la vie, c'est pas j'ai fait l'école de la vie, c'est je sais que vous êtes comme moi. Et c'est la Divine Comédie. Et vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, mes potes. Vous allez lécher mes bottes parce que je suis le chef de tous ces gangs.
Et c'est la première occurrence littéraire du terme l'école de la vie. Et on pense que c'est ça qui a mis tout le monde d'accord. C'est-à-dire que pour nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on dit. Enfin, moi-même, je pense avoir un peu grandi à l'école de la vie. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, chers collègues. Mais c'est quelque chose dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Et tout le monde, quand on parle de l'école de la vie, s'y retrouve.
Vous êtes un représentant de la rue, Thierry, aussi.
Mais un peu, à mon échelle, j'ai envie de dire. À mon échelle.
Vous étiez dans un gang, Thierry.
Je ne veux pas revenir sur ce passé.
Non, mais racontez.
Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il a un tatouage.
Non, mais voilà.
Montrez, attends, Guillaume n'a pas vu votre tatouage, Thierry. Montrez.
Ah, je connais pas votre tatouage.
Voilà, à côté de ses côtes. Voilà, c'est.
Mais c'est une girafe.
C'est une girafe.
C'est une girafe. Et le clan, c'était le clan de la girafe. Voilà, j'ai ce passé, je l'assume. Voilà. Mais voilà, donc quand Dante parle de l'école de la vie, évidemment, ça parle à tout le monde. Et c'était le premier à en parler. C'était le premier à dire, eh bien oui, la vie est une école. Il n'y a pas que l'école qui est une école. La vie, la rue, les gangs, c'est une école.
Est-ce que vous diriez que c'est pas l'école qui vous a dicté vos codes ?
Je dirais pas ça, non. Je dirais que c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. Non, non. Et donc Dante est le premier à mettre le doigt dessus. Dante est le premier à dire, regardez, on est tous dans le même bateau. On est tous dans la même rue, on est tous dans la même ville. Alors pourquoi est-ce qu'on se déchire ? Et ça parle aux gangs, ça parle aux gens, et c'est beau.
Et quel bateau ? Et c'est fou de se dire que voilà, Dante, le petit loup retrouvé, arrive à la terme de son existence et par un texte magnifique dont les premiers mots sont « Le petit loup retrouvé va te mettre une balle perdue ». Qui est déjà quelque chose d'assez beau.
Oui, parce que ce texte, il est quand même particulier en ce sens qu'il est unificateur, mais il impose quand même une certaine verticalité en disant « c'est lui le chef
».
Il écrase.
C'est l'unification, mais c'est très agressif. On l'a dit, beaucoup de punchlines.
C'est la théorie de la meute aussi. C'est peut-être ça que l'aura transmis Arlequin quand même au fond. C'est que il vient du gang du loup. Il y a un chef de meute, voilà. Et effectivement, on n'a pas cette mentalité-là dans le gang de la truite. Mm-hmm. Et ils se sont fait écraser.
On a vraiment une mentalité de banc.
C'est vraiment un banc de poissons.
Il n'y a pas d'alpha chez les poissons.
Non.
Non.
Et c'est ce qui leur a manqué.
Il y a de l'oméga par contre. De l'oméga 3.
Et donc, ce qui est intéressant dans ce que vous dites là, Guillaume, c'est qu'en effet, jusqu'à la fin du texte de la Divine Comédie, qui, on le rappelle, fait 57 mètres de haut, il y a quand même certains esprits qui s'échauffent et qui se disent « Pourquoi suivre ce chef de meute ? Je ne fais pas partie du gang des loups. D'accord, ces mots me touchent. Oui, une larme coule sur ma joue au moment où il prononce ces mots. Mais pourquoi le suivre ? » Et en fait, Dante donc impose, comme vous le disiez, cette verticalité en disant « C'est moi le chef. » Mais finit à la fin, comme on le disait, par se donner la mort devant toutes et tous.
Oui.
Il se donne la mort et donc supprime cette verticalité qu'il vient d'énoncer tout au long du texte.
C'est ça qui est très fort, c'est qu'il se place en leader, tout le monde est sous sa botte, mais il abat ce leader, et voilà, en fait, une fois que vous êtes tous sous ma botte, vous êtes tous ensemble.
C'est un sacrifice qu'il a fait pour la rue.
Comme une famille, comme une grande famille.
Comme une grande chimère de tous ces animaux.
Comme ce qui donne les premiers codes de la mafia. Ouais.
Alors justement, avant de terminer l'émission, on va passer à un extrait de film qui reprend ce concept des miscias verbales. C'était un setup assez simple. Il y avait deux participants, plus un présentateur slash arbitre.
Oui, c'est ça, présentateur, hein. Un chauffeur de salle en fait.
Un chauffeur de salle. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite.
Ah.
Benvenuti, signore e signori. C'est Miskia ce soir. Et pas n'importe laquelle. Le gang de la truite. Le gang des loups. Aujourd'hui, sur scène, pour vous, pour cette Miskia, on a le meilleur des meilleurs de tout le gang de la truite. C'est Panfil Almoroso.
Panfil Almoroso.
Et de l'autre côté, il vient d'être élu à la tête de la meute, à la tête des loups, à la mort d'Arlequin, il a pris sa succession. C'est Dante.
Et ouais, on est là. On est là.
Messieurs, pas de coups bas, d'accord ? On se bat qu'avec des mots, pas de problème.
Eh ouais, tu connais.
C'est bon ? Ok, c'est parti. Vous avez l'instru derrière, elle vous va ? Tranquille ?
Nickel,
c'est parfait,
vas-y.
C'est parfait.
Ok, c'est parti, quand vous voulez, les gars.
L'ouest de Florence, ça sent la frousse. La truite est venue traquer le loup et claquer tes bourses. Fais gaffe à la vague, tu ne sais pas nager. Tu serais vraiment pas le premier ta meute à te noyer. Si tu me demandes ce que mon banc regarde, merde dans mon dos. Les membres de la truite sont jamais solo. Alors petit louveteau, fais gaffe à ta queue. Le gang de la truite t'envoie de l'eau dans tes yeux.
Oh. Ok.
Alors,
un.
Trois petites truites cuites, trois petites truites crues. Je te gasse la gueule en 8, j'ai fait l'école de la rue. C'est ta dernière misca, je vais te réduire en cendres. Petit, tu fais pas le poids, Dante va te descendre. Pamphile, t'es un tout petit poisson, tu seras jamais un alpha. À peine bon à croquer un hameçon, t'es plein d'oméga 3.
Oh,
fallait pas t'en prendre à la meute. Retourne dans ton étang, ça va finir en émeute. T'en sortiras pas vivant.
Oh, ok, ok, belle entrée en matière de Dante. Dante qui entre en matière maintenant. Maintenant on se fout sur la gueule, ok, c'est fini. Allez, maintenant c'est bagarre, sortez vos flingues, sortez vos armes.
Donc voilà, là ce qu'on voit dans cet extrait de film, c'est que on était encore à la période où ça se terminait en vraie bagarre.
Oui, bah oui, oui, toujours. Hein, oui, toujours. Puis surtout après des mix qu'il y a comme ça, c'est...
Parce que là, on était sur de la haute volée.
Ah bah oui, oui, là, c'était la première de Dante en tant que chef. Donc voilà, il arrive sur scène et il crée la sensation finalement. Parce qu'avant, côté loup, on savait que Dante était fort, mais il n'était pas le leader. Du coup, c'était souvent Harlequin qui affrontait Pamphile.
Ouais,
et voilà, il se faisait souvent allumer.
Je savais pas si vous, je sais pas si vous savez, mais ce film, c'est le film qui a inspiré le film sur Eminem, 8 Mile.
Oui, bien sûr.
Ça s'appelle Otto Milo.
Otto Milo.
Otto Milo. Mmh. Oui, parce que là, on vous a mis la VF, qui est la version française, mais la VF, la version florentine. Est vraiment beaucoup plus belle à écouter.
Il y a des nuances dans le texte.
Des nuances, ouais.
Là, je crois que les textes, enfin les traductions, ont été faites par des rappeurs contemporains. Et c'est vrai qu'on n'a pas la plume de Dante, on n'a pas la plume florentine. Quoi.
Très bien. Alors, on est à 2 minutes de la fin de l'émission. Peut-être un petit tour de table pour que chacun parmi vous partagez c'est quoi Dante aujourd'hui pour vous ? À quel point est-ce que ça remplit votre vie ?
Pour moi, Dante aujourd'hui, c'est tout simplement Damso. Donc voilà, moi j'écoute beaucoup de Damso, ça me ramène à mon passé aussi. Voilà,
enfin, passé de gang.
Oui, mais j'ai pas envie d'en reparler. Enfin voilà. Mais voilà, donc pour moi aujourd'hui, Damso est presque le nouveau Dante et je l'écoute beaucoup, oui.
Alors ouais, une influence insoupçonnée qu'a eu Dante sur le monde moderne, c'est les dentistes. qui était un gang qui a dérivé de Dante et de sa Divine Comédie. Donc les gens se sont mis à soigner les dents parce qu'il y a un très très bon... Bah alors forcément, ça fait 57 mètres de haut, donc il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de passages, mais il y a un passage magnifique sur son mal de dents. Il y a des gens qui se sont dit on va soigner ça, et en hommage à eux, ça s'appelle les dentistes. Donc voilà, Dante qui a en tout cas donné son nom aux dentistes.
Et moi, je vous recommanderais le film d'animation Gang de requins. qui est comme la plupart des bons films d'animation qui va plus loin que juste une interprétation d'enfant, hein, ou qui a une double lecture, où on peut qui est en fait voilà une petite allégorie de ce qu'était le gang de la truite.
C'est celui avec les poissons clowns.
Gang de requins. Non ça c'est le monde de Nemo, ça.
D'accord. Jamais vu.
Non bah, gang de requins ça n'a rien à voir.
Très bien, eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous trois. Donc Damso, Les Dentistes et Gang de requins, ce sera les trois œuvres littéraires qu'on conseille à tous nos auditeurs et auditrices. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand hip pour un épisode aujourd'hui consacré à la Divine Comédie de Dante. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand i. Rendez-vous la semaine prochaine.
C'était l'Histoire avec un grand i. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand i afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.